Nina Kenobudadi.
Bonjour à tous.
Alison Wheeler.
Bonjour.
Albert Algoum.
Bonjour.
Daniel
Morin.
Bonjour. Et notre invitée, Mademoiselle Mylène de Bonjour. Mylène qui sera à partir du 21 janvier, c'est un véritable compte à rebours, 21 janvier, avec Jean Piat dans Love Letter, ça se passera à la Comédie des Champs-Élysées à 19h pour être précis, Maréchal, j'espère que vous avez compris pourquoi Mylène de Mongeot est notre invitée.
Affirmatif, Nagui. Bien sûr que nous recevons aujourd'hui Mylène de Mongeot.
Mongeot, Mongeot.
En français, on prononce toutes les lettres.
Non, monsieur.
En français, on prononce...
Et en anglais, on dit Dimongeot.
Exactement. Parce que vous saviez que je serais là et que, comme chaque semaine, je serais le seul homme de goût apte à recevoir dignement cette grande comédienne qui vient nous parler d'une pièce de théâtre, Love Letters, qu'elle joue aux côtés de Jean Piat.
Jean-Pierre.
En français, on prononce toutes les lettres.
Non, pas tout.
Alors évidemment, quand j'ai tenté d'expliquer aux membres de votre bande que les personnages s'écrivaient des lettres, des ricanements ont fusé de tous côtés, notamment chez les bécasses qui vous servent de caution féminine. Une lettre, mais c'est has-been. Plus personne n'en écrit. Aujourd'hui, Maréchal, on est sur WhatsApp, Snapchat ou Periscope. Bref, impossible de faire comprendre à cette bande d'analphabètes le charme fou de cette pièce où, au fil des échanges épistolaires entre Mélissa et Andy, nous passons insensiblement du vert paradis des amours enfantines à la trouble inconstance de l'adolescence, puis aux espoirs mêlé de désillusions de l'âge adulte. Et là, sans vous prévenir, je viens de faire un pitch absolument remarquable.
N'empêche que oui, j'étais en train de me dire que cette séquence n'était pas du tout faite pour ça.
Eh bien oui, mais ouais,
c'est joli.
C'était bon.
Ils nous volent notre boulot.
Ce qui m'a en revanche.
Ils nous volent notre boulot.
Laissez-moi parler.
Qui êtes-vous?
En revanche, ce qui m'a étonné, pour ne pas dire déçu, c'est que j'attendais un peu de soutien de votre part, Nagui.
Ah bon?
Mais quand je vous ai demandé ce que vous en pensiez, vous m'avez répondu, je vous cite, « Love Letters, vu le nombre de fois que ça a été joué, je ne suis pas retapé la lecture du texte. Mais pour ne pas être désagréable, je vais jouer les faux culs en disant que c'est super romantique et que ça m'a fait chialer. Après, de toute façon, je brancherai Mylène de Mongeot sur la souffrance animale ou le droit à mourir dans la dignité. Et ça sera quand même plus fun. » Voilà ce que m'a dit Nagui Mylène. Pour ma part, si j'ai été ému, pour ne pas dire bouleversé par ces love letters, c'est qu'elles m'ont rappelé celles que durant toute ma vie, aussi matrimoniale qu'amoureuse, j'ai échangé avec Edmond, la regrettée maréchale Ganache, dont je fus si souvent séparé, comme Mélissa le fut d'Andy. D'ailleurs, j'ai retrouvé hier, dans une boîte à chaussures, une lettre que je lui adressais il y a plus de 63 ans déjà. Edmond se trouvait au fond de la châtre. Quant à moi, je me trouvais au Tonkin, assiégé par les Viettes dans le fort de Gangbangfok. Mon Edmond, ma chérie, tu me manques horriblement. Ce soir, n'étonnant plus, j'ai demandé à mon aide de camp, Suzy Wan, de préparer un dîner romantique éclairé par une bougie plantée dans un potiron. Au menu, escalope de dindon purée. Pour pallier ton absence, j'ai demandé à Suzy Wan de mettre le masque de toi que j'ai fabriqué à partir d'un agrandissement de ta photo d'identité et d'enfiler ta culotte fendue en forme de cœur, qui est comme le talisman de nos émois charnels. Dans quelques instants, je regarderai ton double au fond des yeux, tout en enfonçant la grosse bougie coulante bien à fond dans un des replis du potiron. Hélas, ce message soudain interrompu par un obus. Interrompu par un obus viette.
Voilà.
Il ne reste plus qu'un papier déchiqueté. Tout comme mon postérieur d'ailleurs, ce qui explique que je ne resterai pas assis à cette table une
Merci.
Minute de plus.
Ah bah voilà.
Bonne émission.
La bande originale. Nagui. Sur France Inter.
Oui, en effet, aux côtés de Jean-Pierre, Mylène de Mongeot, vous reprenez Love Letters. Il y a eu en effet énormément, je ne sais même pas d'ailleurs si ça se calcule.
Ça a même été joué par Elizabeth Taylor et Mel Gibson.
Oui, trop
j'ai regardé sur Internet.
Trop chic. Trop chic.
Mais j'étais en train de penser à ce que vous disiez. S'il n'y avait plus des lettres comme ça, qu'on retrouve dans un grenier ou dans une malle, il y a des tas de films qui ne seraient pas faits.
Jamais.
Hein? Parce qu'il y a des tas de films où les enfants, une fois que la mère est morte, ou que le retrouve les lettres d'amour. Ah, maman! Mais c'est une vraie salope, elle a eu cette histoire. Ah non, c'était beau. Non, hein? On est d'accord?
Absolument. Ouais. Et en fait, justement, l'idée, c'est de se retrouver un peu chacun, chacune dans ces correspondances.
Je crois que pour ça que la pièce est très touchante.
avec le parcours d'une vie, le parcours d'une histoire d'amour.
Qui commence à 8 ans, qui se termine à 70.
Je veux pas être choqué, mais vous allez vous retrouver sur scène, donc, tous les deux, à écrire des lettres en ayant 8 ans.
Oui. Mais on fait pas du baby talk, hein. Je fais pas « Oh, je suis contente d'avoir mon cadeau d'anniversaire !» Non, on ne joue pas comme ça.
Alors justement, est-ce que la mise en scène de Stéphanie Fagado vous met dans quelle situation? Vous êtes en train d'écrire, vous êtes en train de lire,
on est comme ça a toujours été, on est tous les deux assis à une table chacun, séparés l'un de l'autre, avec interdiction de nous regarder pendant tout le spectacle, juste à la fin. Où tout d'un coup, je me retourne vers lui et tout mon amour éclate dans mes yeux.
Waouh, c'est pas évident.
Mais voilà, et on est face au public. Et en fait, le public reçoit les lettres. Donc, c'est une espèce de partie de ping-pong à trois. Des fois, je me dis que c'est une espèce de pelote basque. Ouais, on tape sur un mur, puis ça revient comme ça vers l'autre. Et Stéphanie Fagado, elle est très, très bien. Moi, je suis très contente de ce qu'elle nous fait faire.
Comment ce projet vous est parvenu, d'ailleurs?
C'est un miracle. C'était à la campagne, tranquille, avec mes chats, mes chiens. Mais, non, pas de chiens, j'ai pas de chiens. Mes chats, mes oiseaux, mes poules, mes dindes, mes canards, tout. Et j'avais dit à mon agent, la seule pièce que j'aimerais jouer, parce que je ne me fie plus à ma mémoire, hein, je suis... dame respectable, n'est-ce pas, ça se voit.
Et donc,
la seule pièce que j'aimerais jouer, c'est Love Letter. Si un jour, on la reprend pour la xième fois. Et un jour, elle m'appelle en me disant, dis-moi, la Comédie des Champs-Élysées, Stéphanie Fagado a racheté les droits, elle les a proposés à Jean-Pierre, ils ont fait une liste de comédiennes, et ton nom est apparu. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, ok, j'en pense, oui, voilà.
Aucun doute sur
l'envie. Et ça fait 17 ans que je n'ai pas mis les pieds sur une pièce, sur une scène.
Sur une scène.
Vous dire que, waouh, je suis très très mal. C'est peut-être pour ça que, excusez-moi, je suis peut-être un peu énervée aujourd'hui. Et je suis très très mal, parce que c'est demain, et donc je suis verte.
Vous êtes formidable.
Je croyais que je ne l'aurais pas, non, j'étais persuadée que je ne l'aurais absolument pas. Je me dis, ouais, j'ai tellement l'habitude, j'ai tellement d'expérience, je connais tellement le truc. Et je me retrouve, et je suis comme ça.
C'est du bon stress.
Je me trouve nulle,
mais c'est du bon stress. Et puis surtout,
mauvaise, dégueulasse.
Mais non.
Inintéressante. Je me trouve tout.
En tout cas, il y a beaucoup de comédiennes qui ont le melon à votre place.
Avec votre excitation, vous êtes totalement crédible dans le rôle de la jeune fille qui va à son premier bal. Hein. Là, franchement,
oui.
Ah oui, totalement.
Pierre dit que je suis exactement le personnage. Il dit, on a bien choisi. Mélissa, c'est toi.
Alors, à ce micro, justement, Jean-Pierre avait évoqué sa passion pour le théâtre et son envie de remonter sur les plans.
Pourquoi est-ce qu'on a encore envie de jouer? Parce qu'on a envie de poursuivre cette conversation, on a envie d'être d'abord, et on a envie de poursuivre cette conversation avec le public. Comme le gosse à qui on dit « allez, va te coucher », qui n'a pas envie d'aller se coucher parce qu'il s'amuse bien avec ses jouets. C'est un petit peu la même chose. Il y a quelque chose d'infantile chez les acteurs, sinon ils ne joueraient pas. Ils jouent comme l'enfant, quoi.
Quelle voix il a, c'est un délice, sa voix.
C'est ce que vous pensez, vous aussi?
Ben, je sais pas, moi, je pense
de ce rapport au public, de cette passion qui
j'en sais rien, je vais voir,
tout.
Je vous dirai ça dans une semaine.
On va laisser passer la trouille, après on verra.
Là, je...
Vous avez oublié, c'est comme si vous aviez oublié, en fait.
C'est comme si j'avais plus aucune... Et je crois que ça vous fait le truc à chaque fois qu'on fait quelque chose. Même un film, vous arrivez avec... Vous connaissez votre texte, vous connaissez le truc, vous l'avez accepté, vous connaissez les gens. Mais quand vous arrivez le premier jour sur le plateau, avec un metteur en scène que vous ne connaissez pas forcément, il y a tout à recomprendre, à réapprendre, à reassimiler. C'est très très bizarre. Et c'est peut-être pour ça que c'est intéressant après tout.
Mais ce qui est, vous avez l'air d'une, pardon, hein, mais d'une puce surexcitée. Je trouve ça très mignon, ouais. Et en même temps, cette pièce, vous la connaissez, vous l'aimez, vous allez pouvoir la lire.
Vous la vouliez,
ce qui est, confortable. Oui,
je la voulais, mais je veux être au top. Je veux pas être juste bien, je veux être mieux que bien. Voilà, c'est ça qui m'excite, c'est d'essayer d'être mieux que bien.
Alors, il y a toutes les humeurs qui vont être transmises à travers ces lettres, parce que il y a la découverte de l'amour entre les deux personnages, il y a un jeu de séduction, il y a des tromperies, des absences de réponse, même.
Des parents qu'on a reçus, que moi j'ai connus parce que je suis une dame âgée, mais l'éducation imbécile des années 50, où le garçon devait être comme ça, la fille devait être comme ça, les choses devaient être comme ça, etc. On a connu ça. Donc, ce qui arrive à Andy et à Mélissa, cette éducation rigide et con, je la comprends très très bien parce que nous l'avons subie. Je disais l'autre jour à quelqu'un que quand j'avais 20 ans, moi à l'époque, quand je pense aux filles d'aujourd'hui, moi 20 ans, les filles d'aujourd'hui, elles ont 12 ans. Moi, voilà.
Oui, oui, je crois dans le rapport d'âge, oui, c'est ça.
C'est incroyable.
Ouais.
Et puis, c'est quand même l'histoire d'un homme et d'une femme qui apprennent à se découvrir par l'écrit. Et c'est ça aussi qui est beau et qui pose problème dans cette histoire entre Mélissa et Andy. C'est de se dire qu'à un moment, quand ils se voient en vrai,
oui,
ils ne se reconnaissent
t'es une autre personne,
pas.
Je te connais pas.
Oui.
Oui. C'est très très joli quand elle lui dit ça. Je te connais pas en vrai. Je te connais par lettre. Je sais rien de toi. Je sais pas que dans la vie tu sois moche ou nul. Non. Mais voilà. Mais je te connais pas.
Et puis on voit aussi toute une forme d'éducation, de pensionnat, de partir, de
couvent.
Au couvent, de se retrouver enfermé. Alors justement, quelle la valeur aussi de cette pièce, au-delà de l'universalité de l'amour, c'est d'être une photo instantanée d'un moment, d'une période, de dire aussi il y a eu ces années-là.
J'ai l'impression que
c'est un décalage aussi.
Tout le monde s'y retrouve plus ou moins dans cette histoire.
Dans les sentiments, oui, mais après dans les couvents, les écoles militaires, un peu moins.
Ce qui leur arrive, c'est intéressant. On apprend des choses, on se dit « Oh là là, coup de peau que je n'ai pas vécu à cette époque-là
!» Oui, parce que ça pourrait fonctionner, ça pourrait être une correspondance par email, en fait.
C'est affreux, j'en ai eu une avec un amoureux, une correspondance par email. Et alors, comme je ne voulais pas tout foutre en l'air, j'étais obligée de tirer les emails à chaque fois. Donc j'ai un énorme dossier comme ça.
Ah, vous les avez imprimés ?
Des emails, imbécile, comment vas-tu ? Oui, ça va, et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Ok. Tandis que les lettres, quand même, on essaye de raconter quelque chose dans une lettre. C'est plus subtil, une lettre. On ne dit pas simplement comment tu vas, qu'est-ce que tu as fait hier, où tu étais.
Oh, je ne suis pas d'accord, Mylène de Mongeau. On peut aussi exprimer de très belles choses dans un mail.
C'est vrai ?
Ouais, oui.
Mais j'en ai pas reçu encore.
La seule différence, si je peux me permettre, c'est qu'il n'y a pas la même émotion dans l'écrit ou dans le graphisme.
Ouais.
Et puis il n'y a pas le parfum. Et il n'y a pas l'odeur.
Ah, tu parfumais tes lettres.
Non, moi non, mais j'en recevais parfumé.
Et ben tu peux pas.
Oui.
J'en recevais parfumé avec des bisous dessus, avec la marque du rouge à lèvres, tout ça.
Oui,
ouais.
Mais Alison a raison, tu peux mettre en pièce jointe une chanson qui va accompagner la lecture de ton mail. Tu peux réinventer un peu les choses.
Non, mais déjà, toucher la lettre, c'est déjà un peu de la personne.
Moi, j'ai retrouvé une photo de Gérard Philippe, dont j'avais une passion dévorante quand j'avais 13 ans. Une photo dédicacée qu'il m'avait envoyée. Ben, j'ai retrouvé la photo, j'ai hurlé de rire. C'était pas du rouge à lèvres qu'il y avait dessus. Mais je l'avais tellement embrassé que le merci était complètement... Il n'y avait plus.
Complètement usé.
Hein.
D'autant que, alors, dans cette liaison épistolaire, donc à travers ces lettres, l'un des deux n'aime pas beaucoup écrire ou répondre aux questions.
Elle déteste. Mélissa, voilà. Elle déteste. Elle veut le téléphone, ça va plus vite, c'est plus rapide, elle est plus moderne que lui. Mais lui, il dit j'aime écrire, j'aime raconter des choses, j'aime ça. Il dit oui, bon, ça va, tu m'as envoyé une lettre interminable, ta lettre, mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce que tu ressens. Alors explique-moi un peu ce que tu ressens. Et quand elle lui dit ça, il lui répond bah, mon chien me manque beaucoup.
Non, et puis elle joue même avec le problème de la rapidité et du délai. C'est-à-dire, si tu m'avais téléphoné, je t'aurais répondu oui et je serais venu. Bah, là, par courrier, malheureusement, j'ai déjà accepté une invitation.
Voyez que vous connaissez bien la pièce, hein.
Excusez-moi de préparer cette émission aussi. Écoutez, non, je l'ai relu pour le plaisir.
Ça lui arrive de temps en temps. Ça, là, aujourd'hui, il a préparé.
Aujourd'hui, oui.
Je l'ai relu pour le plaisir. C'est Mylène de Mongeau. Et ça fait combien de temps que vous n'étiez pas montée sur
17 ans.
17 ans. Pour la première fois depuis 17 ans, il faudrait le mettre
une
comme
virginité, une presque.
Un second. Aux côtés de Jean-Pierre dans Love Letters.
Et Jean-Pierre dans le même état?
Oh non, je crois pas. Lui, il a, on sent qu'il a cette énorme expérience. Hier, quand on a été faire une émission ensemble, bon, les gens m'ont applaudi parce qu'ils sont très gentils, mais quand il est arrivé à côté de moi, alors là, tout le monde s'est levé et je me suis rendu compte de l'extraordinaire popularité qu'il avait depuis un temps fou. En fait, Pierre, c'était un monument, quoi. Voilà.
On va tous les deux. Franchement, moi, je trouve que le couple réuni fait la belle histoire. Mylène de Mongeau et Jean-Pierre à la Comédie des Champs-Élysées à 19h. À partir de demain, vous avez compris toute la pression qu'il y avait sur les épaules de Mylène, puisque nous sommes à la veille de cette première. Avant de Leïla te laisser, oui. Te laisser parler, je me demandais la première. Est-ce que vous avez un cérémonial, une manie pour une première? Est-ce que au théâtre généralement on se fait des cadeaux pour les premières?
Je pense que je vais recevoir pas mal de fleurs parce que j'ai des admirateurs, qui des gens qui m'aiment, je vais avoir des fleurs.
Oui, mais vous,
et moi,
vous normalement, vous devriez offrir un cadeau à Jean-Pierre devrait vous offrir un cadeau.
Bah, je sais pas,
pour
vous
les premières,
demain.
C'est ce qu'on fait, non?
J'en sais rien, je m'en souviens plus.
Vous n'avez pas prévu de faire un cadeau?
Vous n'avez pas un petit cérémonial avant de rentrer sur scène, quelque chose?
Un gris-gris.
Je vais peut-être manger du chewing-gum. Je vais peut-être boire un verre de vin blanc pour me
donner
du colis. J'en sais rien encore.
Oui, se désinhiber.
Désinhiber.
Désinhiber. Rien que de le dire déjà, ça aide avant de monter sur scène.
À l'articulation.
Je te remercie, Alison.
Courage.
Leïla, vos oreilles ont sifflé lorsqu'on vous annonçait la venue de Mylène de Mongeau.
Et oui, et Mylène de Mongeau, quand j'ai pensé à vous, j'ai immédiatement pensé à des hommes. Jean Marais, Yves Montand, David Niven, Roger Moore, Dirk Bogarde, Samy Fray, Jean-Paul Belmondo, Michel Piccoli, Gérard Depardieu, tous ces hommes, tous ces...
Et Laurent Terzieff, que j'ai tellement adoré.
Et Laurent Terzieff, on l'ajoute.
Faut pas l'oublier, lui.
Tous ces grands, mais il y en a tellement, en fait.
Bah oui, j'ai eu des bons partenaires. Hein. J'ai été très gamin. Vous savez, 70 films, ça fait 70 partenaires. Voilà, donc dans les 70, il y en a une trentaine très prestigieux, puis des autres qui sont normaux, quoi.
Et justement, s'il fallait, citer comme ça un ou deux partenaires avec
plus marquants qu'un autre,
lesquels vous avez particulièrement aimé jouer.
Alors, je vais vous dire, j'en parlais avec Pierre l'autre jour, parce qu'on travaille beaucoup, on a beaucoup répété avec Jean, et je lui citais une phrase que David Niven m'avait faite quand on répétait Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse, à l'époque je jouais en anglais, c'était pas ma langue, donc je travaillais comme une malade. Et il était adorable, David, on avait une longue scène tous les deux, il me faisait répéter. Un jour, parce que c'était pas la mode en France. En France, au contraire, la mode était que les grands acteurs ne répètent pas, arrivent sur le plateau, fassent travailler la doublure, et quand eux se mettaient à jouer, alors là, ils faisaient tout à fait autre chose pour déstabiliser le partenaire. Donc j'étais surprise du comportement de Niven, je lui dis pourquoi. Et il me regarde comme ça avec son bon sourire et toute sa classe de gentleman anglais. Il me dit, mais mon petit chou, meilleur tu seras, meilleur je serai. C'est génial. Alors je l'ai dit à Pierre, j'ai dit, vas-y, dis-moi des choses, parce que meilleur tu seras, meilleur je serai. Voilà, on le fait.
C'est beau.
Quand je pense à vous également, Mylène de Mongeau, je pense à de la musique.
Bonjour.
Ah, bonjour. C'est trop de la musique, ça.
En gros, là, il vous reste 30 jours pour payer.
Alors, je mets la clé sous la porte, c'est ça?
Je reviens.
Est-ce que vous auriez une cigarette, s'il vous plaît?
J'ai jamais su rouler les cigarettes comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'on fait là, tous les paumés?
Bon, je vais pas tarder.
On a rencontré avec quelqu'un, on cherche la bête.
Il paraît que t'es en fugue. Ah, je m'en fous, je veux pas le savoir, ça me regarde pas. Mais là, il se trouve que je suis en galère avec mon fils, donc si tu pouvais t'intéresser à nous deux secondes. Mon fils doit aller passer les vacances chez son grand-père.
Bonjour. C'est Betty, ta mamie.
Maman, elle a dit de pas te laisser fouiller.
Tu me fous la honte devant tout le monde.
Tu vas pas m'emmerder longtemps, toi, tu sais.
C'est un extrait de la bande-annonce d'un film que j'adore. C'est Elle s'en va d'Emmanuel Berco, où vous jouez avec Catherine Deneuve.
Mais j'étais en train de critiquer dans ma tête parce que je me dis que les filles aujourd'hui, elles parlent de plus en plus vite, mais elles articulent très 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 mal. Et des fois, je me fais suer à la télévision parce que je regarde un film et je dis blablabla. Je dis, qu'est-ce qu'il fait là?
Mais vous parlez vite aussi, Mylène.
Oui, mais j'essaie d'articuler. J'essaie. J'articule pas comme Pia. Pia, c'est prodigieux. Il n'y a pas une syllabe qui échappe. Et je pense que vous aussi, quand vous avez démarré, vous avez fait de l'articulation, non?
J'aurais dû, je pense.
Il n'est pas trop tard.
Je démarre.
C'est même de l'orthophonie, le concernant.
On fait de la musculation.
Ouais, chirurgie faciale, même.
Musculation labiale.
Voilà. En tout cas, dans ce film, Mylène de Mongeau, Catherine Deneuve incarne Betty, la soixantaine, qui s'est fait plaquer, qui est seule, qui ne reprend pas le restaurant familial. Elle décide de prendre la route et ainsi, elle rencontre des personnages. Parmi ces personnages, une femme, vous, Miss Bocage Normand. Comme une forme de pied de nez à cette étiquette de la blonde sensuelle que vous incarniez dans les années 60. C'est un très beau film de femmes aussi. Vous avez eu beaucoup de satisfaction à jouer avec les femmes. On a parlé des hommes, mais
là,
femmes.
Je viens de travailler justement avec pas avec elle, mais dans le même film. Il y a le film de Martin Provost qui va sortir bientôt qui s'appelle Sage-Femme. Oui. Et Sage-Femme est fait avec Catherine Deneuve et Catherine Fraud. Et Martin m'a proposé une scène tout à fait jouissive que j'ai faite avec Catherine Fraud. Donc, je reste encore dans cette mouvance. Et j'ai appris que le film s'en va au Festival de Berlin. C'est génial.
Bonne nouvelle. On poursuit cette fois-ci encore avec de la musique. Allez.
À la guitare. C'est quoi, c'est un western ?
Western,
c'est Trumpet vraiment. Boy et son orchestre, extrait d'une compilation de 1960, Danse Party chez Mylène de Mongeau.
Oh, j'ai jamais vu, vous savez, j'ai acheté la photo, il mettait la photo. C'était même pas ce
qu'est-ce que c'est
dedans.
Cette histoire.
En fait, l'histoire, c'est que c'est une sélection des titres préférés des grandes stars. Ouais. Ah. Il a dit des compiles.
Ah, il y avait ça à l'époque. Ouais.
Vous incarniez vraiment le chic ultime, quoi. C'est
pas du tout mon
votre
genre
nom,
de truc, ça.
Votre nom faisait vendre des disques. C'était complètement fou. C'était genre demain,
alors,
je dis par exemple.
Alors qu'elle n'y était pour rien.
Bah, demain par exemple.
Vous n'aviez pas choisi ces musiques,
hein. Ils ont dû payer la couverture de la photo, ouais. Oui, sûrement.
C'est comme si je te proposais demain une compilation Nagui.
Soirée chez Nagui, ouais.
un double album.
Nagui, ouais.
Un double album, mais que, en fait, je m'occupais de choisir les titres, je mettais ta photo dessus, et puis ça suffisait à faire vendre des disques.
C'est du marketing total.
C'est du marketing. Regardez les géries Auréal, vous pensez qu'elle met sur sa figure tous les trucs pour lesquels elle fait de la pub?
Je pense qu'elle est obligée, oui.
Obligée.
Je pense que les égéries, il me semble, je suis pas sûr.
Bah,
quand elles sortent.
En tout cas, quand elles ont un contrat, elles sont obligées de porter le rouge à lèvres de la marque. La crème, c'est pas possible. Les vêtements, par exemple, ils sont obligés d'être habillés.
Les vêtements, oui, ça coûte cher.
J'ai porté un pull de L'Oréal, moi, parce que sinon.
À propos de marketing et de popularité, la reconnaissance doit être régulière et quotidienne dans la rue. Mylène de Mongeau, les gens qui vous croisent, qui vous reconnaissent, qui vous demandent un selfie ou un autographe. C'est via, entre guillemets, Fantomas ou Camping?
D'abord, je vais dire que j'ai énormément de chance parce que quand j'étais jeune et très défavorisée par la nature, en fait, j'ai profondément rêvé d'être aimée. Certainement, de l'âge de 8 ans à l'âge de mon opération des yeux, j'ai rêvé d'être aimée parce que ma jeunesse a été atroce. Donc, je voulais être aimée. Le fait de devenir une vedette fait que les gens m'ont aimée. Et aujourd'hui, ce qui me touche, c'est que quand je rencontre des gens partout, il m'aime. Je suis rentrée l'autre jour parce qu'il pleuvait. Je suis allée dans un magasin pour lui demander la permission d'appeler un taxi. Et la dame m'a dit « Oh, c'est vous, je vous adore ». Il n'y a rien qui me fait plus plaisir. C'est énorme. À part ça, qu'est-ce qu'ils connaissent comme film ?
C'est une chance, en tout cas. Oui, c'est vrai. C'est une chance.
C'est formidable. Ouais. Je n'ai jamais rencontré de gens agressifs, méchants, ou qui me disent « Ouais, tire-toi, sale pute », ou des trucs comme ça.
Oui.
Jamais.
Non, enfin, Mylène,
des gens gentils.
Qu'est-ce que c'est que ce langage ? Qu'est-ce que c'est que ce langage ?
C'est le langage de la vie.
Souvenez-vous, le martyr de Vanessa Paradis quand elle était toute petite. Comment elle s'est fait agresser partout. Et souvenez-vous, Bardot, qui s'est fait agresser dans un ascenseur par une bonne femme qui l'a traité de tous les noms. Elle l'a pas traité de sale pute, mais elle dit qu'elle était une putain et tout ça. Horrible.
Mais parce que les films comme Dieu créa la femme avaient créé la polémique à l'époque.
Énorme. Voilà, vous rendez compte, une fille nue dans un peignoir qui osait descendre le jour de son mariage où tout le monde attendait pendant le déjeuner. Ces jeunes gens qui n'arrivaient pas, elle arrive à poil, elle prend un plateau, elle charge le plateau, elle leur fait « Ok, bon, tout va bien », et elle remonte. Oh, mais pour nous, à l'époque, pour nous, quand on a vu ce film...
Vous n'avez jamais fait ça. Vous n'avez jamais...
J'aurais jamais osé. Mais enfin...
Donc, si vous n'avez pas été sulfureuse dans les rôles que vous avez interprétés, vous ne pouvez pas l'être dans l'esprit des gens et dans les reproches qu'ils peuvent vous faire.
Voilà, puis la fille de Fantomas qui traverse le temps grâce à De Funès, elle est gentille, Hélène de Fantomas, donc tout le monde l'aime bien.
Camping, vous êtes dans les trois,
Madame Pic, c'est rigolo, Madame Pic, c'est un rôle de composition, quoi, je me marre bien.
Oui, j'espère, oui. Mais donc, ça ne me dit pas si la notoriété, les gens, justement, quand ils vous disent « je vous aime bien », si vous savez d'où vient cet amour.
Ah ben non, parce que j'ai jamais posé la question.
Donc c'est sur le fil normal de la carrière, sur tout
ça,
ce qu'on a pu faire.
Ça ne s'explique pas.
Je ne sais pas.
Tant mieux, parfait. En tout cas, ceux qui vous aiment et d'autres iront vous applaudir à la Comédie des Champs à partir de demain, Love Letters, aux côtés de Jean-Pierre. Voici l'humeur d'Alison Wheeler, que l'on aime.
Yes. Alison.
Eh ben non, Nagui, au jour d'aujourd'hui, c'est pas Alison Wheeler, moi c'est Sydney Love, d'accord? Et si je suis là aujourd'hui, je vais pas vous mentir, c'est parce que les jeunes, ils sachent pas pour qui voter. C'est vrai, c'est une jeunesse désenchantée politiquement. Et comme je suis une personne avec des idées, t'as eu? Ben moi, Sydney Love, j'ai décidé de me présenter aux élections.
Non.
Ouais.
Alors. Oh,
oh. Génial.
Skyrock.
Maman, oh, je crois pas.
Mathieu Gallet. Aujourd'hui, faut parler vrai aux gens, descendre un peu de son pied d'escale. Tous ces hommes politiques énervants, ils sont tout le temps sur leur grand cheval. Y a ceux qui croient qu'il n'y a pas de solution. Ça, c'était avant mes propositions. Je suis le lave-linge de la politique. Tu verras, mon programme est synthétique. On vote pour Sidney Love, des idées qu'elles innovent. On vote pour Sidney Love, tout le monde sera plus love. En écologie, soyons dans l'action. Je veux que les jeunes y soient mis à contribution. Mettre des éoliennes sur leurs casquettes Vuitton. C'est pas sur leur jogging qu'il faut mettre la pression. Et stop avec la biodiversité. Oui, c'est vrai, des espèces sont menacées. Mais les espèces, rien à carrer. Moi, Sydney, je suis pour le paiement en CB. Je vais mettre Marisol KO. J'ai ma mesure pour la santé. Je veux punir tous les hôpitaux qui se moquent de la charité. Vote pour Sidney Love, des idées qu'elles innovent. Ou vote pour Sidney Love, tout le monde sera plus love. Pour lutter contre la taxe tampon, comme MMA, je mets un malus. Pour compenser de les garçons, moi j'instaure une taxe prépuce. On a un déficit bling bling, il dépasse autant que mon string string. Je ferai baisser les dépenses, Sidney Love va sauver la France. Au sujet de la fiscalité, ce qu'il faut c'est la supprimer. D'abord parce que c'est abusé, et surtout je sais pas ce que c'est. Je suis contre les clichés, sauf sur Instagram bébé. Je veux que les blancs puissent porter des locks. Je veux que tout le monde puisse porter des crocs. Moi, je suis métisse d'adoption. Le zouk est ma vraie passion. Contre le racisme, je donne l'espoir. Je veux que les blancs puissent voter noir. La parité compte vraiment pour moi. Je sais d'où je viens et où je vais. Du vagin de ma mère à chef de l'État. Je suis droite où je suis fer. Je suis Sidney, vote pour moi. Vote pour Sidney Love. Des idées qu'elles innovent. Ouh. Vote pour Sidney Love. Tout le monde sera plus love. Mes rimes sont tellement riches qu'elles ont des comptes au Panama. Skyrock.
Bravo.
Bravo.
Vote pour Sidney.
Wouhou. Sidney président. La bande originale. Oh,
qu'est-ce que mes rimes beau, sont tellement riches, elles ont un compte au Panama. Mais qu'est-ce que j'aime
ça. Merveilleux.
On est sur du manque de respect de soi. Hein.
Ah oui, et la beauté de la langue française aussi. Alison Wheeler.
Bravo, Skyrock.
Cette bande originale sur Inter.
Au moins, il y a des propositions. Voilà.
Big on up. A envie de voter. Voilà,
les merci. Éoliennes.
Et Mathieu, Mathieu est cité.
Ouais, Mathieu Galga.
T'arrêtes d'être faillot. Oui.
J'ai vu l'autre jour dans les couloirs de France Inter.
Beau gosse, hein.
Ouais. On en parle beaucoup, hein, en tout cas.
Très propre.
Ah ouais.
Il est d'une beauté.
Bon, là, propre.
Mylène de Montjoie oui. Est notre invitée. Nous allons évoquer en musique quelques années de votre carrière, vos débuts notamment dans le mannequinat. On est dans les années 50 et vous écoutiez. J'adore ça.
C'est
joyeux. Liberté de la vie. Mr. Sandman, c'est léger, oui, on a envie de se balader au soleil dans la rue. Et c'est un peu comme ça
avec
que c'est.
Avec Mathieu Gallet.
C'est avec une jolie fille en robe, fleurie.
J'étais à Londres à ce moment-là.
Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Vous avez été repérée dans la rue.
Ouais, j'ai été repérée dans la rue avec ma maman. Et le monsieur a dit j'aimerais bien que vous posiez des photos. Maman a dit quelle horreur, monsieur, allez-vous-en. Et je suis rentrée à la maison, il m'a laissé sa carte. Et j'ai dit à maman, tu m'as jamais donné un centime pour que j'ai un tout petit peu d'argent de poche, que je puisse m'acheter un pull, que j'arrête de porter les robes, qu'on rallonge, qu'ils sont tes robes, j'en ai marre. Laisse-moi gagner un petit peu de sous. Et ma mère, en bonne bourgeoise, hein, puisque je suis bourgeoise, et ben elle a fini par dire oui. Donc j'ai commencé à faire une photo, puis deux photos, puis 10 photos. Et puis comme j'avais un très long cou à l'époque, n'est-ce pas, très très long, je faisais beaucoup de photos de chapeau, de beauté, tout ça. J'ai gagné plein de sous. J'ai enfin pu m'acheter des pulls. Et donc le piano, qui était ma passion et qui était mes 6 heures par jour, ouais, vivant toute seule dans une chambre, et ben le piano, il est parti aux oubliettes, sauf mon amour de la musique qui n'a jamais bougé, évidemment.
Vous avez travaillé avec un immense pianiste, Yves Nat.
J'ai travaillé avec Yves Nard et j'ai travaillé avec Marguerite Long.
Voilà, deux immenses pianistes.
Elle disait, il disait que j'étais très douée si seulement j'avais eu la constance de faire mes 6 heures par jour. Je me suis fait attraper par la société de consommation.
Dévoré par le planning et puis par les plans de tournage, parce que le cinéma est arrivé très tôt également, peu de temps après ce scout qui vous a chassé pour devenir mannequin. Vous avez eu un rôle dans Les Enfants de l'Amour.
Pas mannequin silhouette, hein, j'ai toujours été trop...
Non mais photo.
Mannequin beauté, voilà. Ça s'appelle.
C'est mieux.
C'est quoi la différence?
J'ai jamais eu la ligne.
C'est que t'es pas sur un podium en train de faire les 400 pas sur le catwalk, mais tu es en photo pour uniquement le visage, le chapeau ou...
J'aime ça, les bras, les machins, voilà. Les trucs, mais pas... je suis trop dodue. Alors, osons le dire, même quand j'étais jeune, j'avais la taille comme ça, mais j'avais les hanches comme ça.
C'est ça qu'on
donc,
aime.
Ça n'a jamais été la beauté d'un mannequin, ça. C'est ça.
On est à la radio,
Mylène. Oui, c'est vrai.
Mais c'est bien. Donc, elle n'était pas comme ça, mais elle était plutôt comme ça. Mais comme elle est comme ça, ça passe.
À l'époque, ce n'était pas généreuse. Les femmes tiges, c'était les femmes fleurs.
Je trouve bien de laisser l'imaginaire. C'est la force aussi de la radio, c'est de laisser l'imaginaire, ou comme si... comme ça. Vous vous retrouvez au cinéma dans Les Enfants de l'Amour. Comment, quelle passerelle avez-vous emprunté du mannequinat au cinéma?
Eh bien, j'ai fini par aller au cours Simon parce que toutes mes copines, mannequins, de beauté ou pas de beauté, mais toutes mes copines allaient au cours Simon.
Mannequin
donc,
laideur,
on m'a traîné au cours Simon. Et là, j'étais dans un coin. René Simon m'a dit, toi, il faut que tu travailles Célimène parce que c'est ton truc, t'es une coquette, etc. J'ai dit, oui, monsieur, j'étais terrorisée. Et un jour, le gentil Léonide Mogui est venu au cours et il a sélectionné Hachika Choro, qui est devenue princesse depuis. Il a Nadine Tallier, qui est devenue la baronne de Rothschild. Il y avait, et puis moi, pour faire une jeune fille mère, parce qu'à l'époque, fille mère, la honte,
scandale.
Vous vous rendez compte, attraper un bébé, parce qu'à l'époque, on disait attraper un bébé, j'ai attrapé un bébé.
Comme on attrape
et
une maladie,
pauvre, c'est ça. Sa mère refuse qu'elle se fasse avorter parce que scandale épouvantable. Et mon premier jour de tournage, je vous le raconte parce que c'est trop beau. Mon premier jour de tournage, je suis arrivée au studio, on m'a maquillée, on m'a mis un faux ventre et on m'a mis sur la table de gynécologie que toutes les femmes connaissent, n'est-ce pas? Les jambes largement écartées, pour moi jeune vierge. Hein, je vous signale, à l'époque.
On savait pas, c'était pas au générique, ça.
Et Jean-Claude Pascal, le très beau Jean-Claude Pascal, qui avait des cils comme ça, et qui n'aimait pas beaucoup les dames, est arrivé, il m'a regardé d'un air écœuré. Déjà, ça a été affreux. Et j'ai dit à Léonide Mogui, mais comment je fais pour accoucher, là? Parce qu'elle accouche, comment je fais pour accoucher? Ah, il me dit, mais écoute, ça fait très mal, et tu hurles. Ok, il dit, bon, ben d'accord, ça fait mal, et je hurle, j'ai hurlé. C'est mon premier jour de tournage, c'était atroce.
En 1958, Mylène de Bonjour, vous écoutiez.
J'aimerais t'en voir, Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan.
Justement, vous avez voyagé, beaucoup voyagé, vous avez tourné à Londres, vous avez tourné aussi à Saint-Tropez, l'adaptation de Bonjour Tristesse.
Il y a d'autres destinations, parce que là, vous avez beaucoup voyagé, Saint-Tropez et Londres.
En tout cas, pour les tournages là de Bonjour Tristesse, oui, sous la direction.
J'ai été beaucoup en Angleterre et beaucoup en Italie, je suis restée pas mal en Italie, c'est vrai.
Otto Preminger, c'est un nom évidemment...
prestigieux.
Magique et culte, ouais. Vous en gardez quel souvenir?
Excellent. J'ai jamais eu peur de lui, parce qu'à l'époque, j'étais... une jeune actrice pleine de culot, parce que tout me réussissait. Donc quand je le voyais devenir violet, apoplectique et prêt à éclater de rage, je lui dirais, oh, oui, Otto, vous ne devriez pas, hein, parce qu'à votre âge, vous allez avoir une crise cardiaque, c'est pas bon pour vous, ça. Alors, il restait quoi? Et je le désamorçais.
Personne n'osait lui parler comme
ah
ça.
Non,
c'était très colérique.
Hein, elle tombait par terre tellement elle avait peur de lui. Il était un vrai salaud avec elle. Mais avec moi, il a été très sympa. Non, mais voyez, on écoutait Salvador. Salvador, c'est pour... à travers toutes ces années, c'est mon meilleur pote. C'est quelqu'un, je l'ai suivi depuis cette époque-là jusqu'à ce qu'il s'en aille. Un type, je trouve, un musicien extraordinaire qui était tellement malheureux d'être célèbre à cause de Mini Petite Souris.
Ouais.
Alors qu'il aimait Syracuse, il aimait Count Basie, il aimait toutes ces chansons-là. Mais son fric, ça venait de l'autre côté. Et il râlait. Et des fois, je lui disais, bon, quand tu peux me faire les Dalton, parce que c'est quand même rigolo, les Dalton.
Ouais, puis il y a eu Zorro. Et
Zorro est arrivé.
Mais il est revenu avec Un Jardin d'Hiver. Enfin, ouais. Il est revenu avec des chansons
mais
qui
lui allaient
bien
content.
Aussi.
Mais là, il était content. Donc sur la fin de sa vie, il a enfin eu la reconnaissance qu'il souhaitait. C'est beau. C'est formidable.
1964, vous écoutez.
Podem preparar milhões de festas ao luar. Eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir.
João Gilberto.
Il y a eu une grande histoire d'amour avec lui. Je suis partie faire un film qui s'appelait Copacabana Palace et dont il était le musicien. Le musicien du film.
Il faisait la bande originale.
Et, ouais. La bande originale et je suis tombée comme une mouche. J'aimais tellement la musique. Vrai. Il y avait Jean Gilberto, il y avait Baden Powell, il y avait Vinicius de Moraes, il y avait lui, il avait 28 ans, j'avais 25, je sais pas. Il faisait beau comme un dieu. Là, je dois dire, je suis tombée, je voulais plus rentrer en France. J'étais partie pour faire un film qui durait un mois et demi.
Tu vois qu'elle
je
a
restée,
voyager, hein.
Je suis restée 3 mois.
Mais c'est incroyable parce que c'est les plus grands chanteurs brésiliens, les plus grands artistes brésiliens.
On faisait de la musique toute la journée. Alors, c'est ce qui me déprime avec les musiciens d'aujourd'hui, c'est que, à part Thomas Dutronc, non, mais ils ne jouent plus. Ils ont leur boîtier comme ça, avec tous leurs trucs et leurs boîtes et leurs machins. Et quand je les vois, composer, ils sont là avec leur casque, ils font da-da-di-da. Et puis, on va rajouter da-da-tout-da. Les miens,
non, mais il reste des musiciens.
Toute la journée, on faisait de la musique.
Mais vous chantiez, vous avez l'air de chanter un peu.
Évidemment, je chantais comme une casserole, mais je chantais quand même. Ce qui est important, c'est le plaisir.
Mais oui.
Dans ces années, milieu des années 60, vous étiez présentée comme la concurrente, la rivale de Brigitte Bardot. L'avez-vous jamais été
Ben non, parce qu'elle avait un succès qui était très différent du mien. Et moi, je rigolais à une époque. Je disais ça, maintenant, ça, c'est ridicule. Mais moi, elle était la fille qu'on convoite. Et moi, j'étais la fille qu'on épouse.
énorme succès avec Fantomas. Jean Marais vous adorait. Jean Marais, il faut quand même resituer pour ceux qui n'ont pas connu ces années, était une
star.
Immense star.
Beau. Et d'être adoubé comme ça par Jean Marais, c'était.
J'adore Jean, mais moi, mon grand amour professionnel, c'est De Funès. De Funès. Je l'ai regardé en extase, il m'a tout appris. J'ai passé des heures sur
le rythme,
le travail, le fait que tu reçois une page de texte où il est écrit bonjour, vous allez bien? Ah, il y a un pendu, etc. Bon, tu lis ça et puis on voit De Funès arriver sur un plateau et on voit ce qu'il en fait. Mais c'est incroyable l'invention, la richesse imaginative. Et alors avec lui et mon copain Jacques Dinam, on préparait nos scènes, on allait dans un coin. On préparait, et puis on allait retrouver le metteur en scène, André Nebel, et on lui disait, voilà, t'as qu'à mettre la caméra là, on tourne. On n'avait pas besoin de lui du tout. Du final, il avait tout fait, et nous, on était fous de joie. J'ai adoré ce type. C'est un acteur.
C'est un grand monsieur, humainement, hors caméra, dans
il
les
rapports. Il était extraordinaire, parce qu'on a souvent parlé ensemble, il m'a fait des coups pendables. Je lui veux, et il n'est plus là, mais je lui en veux toujours, un jour... Marcel Aimé était le client de mon agent. Donc Marcel Aimé dit, j'adore De Funès, je veux écrire pour lui. Et j'arrive au studio comme une dingue en disant, je sais pas si tu te rends compte Louis, Marcel Aimé veut écrire pour toi. Mais c'est fabuleux. Tu vas être le Pagnol avec Rému et toi, Marcel Aimé avec toi. Et ce con il me dit, non, je ne le rencontrerai jamais, je ne veux pas le voir. Je suis trop nul, je suis trop inculte, je suis trop ceci. Et je n'ai jamais réussi à organiser cette rencontre. Il était pétrifié de trouilles devant Marcel. Mais c'est pas possible.
Il y avait quelque chose d'autre.
Non, c'est un grand complexe énorme.
De ne pas être reconnu par...
Il n'a pas voulu, il a eu la trouille. Pourtant, le passe-muraille, il aurait été extraordinaire dans le passe-muraille.
Ouais, c'est Bourville qui l'a fait.
C'est Bourville.
Oui, mais bon, De Funès, il avait... Oui, oui. C'était un mime. Moi, il m'a refusé de... Quand j'ai produit Signé Furax, quand on a tourné le film, j'ai proposé évidemment le rôle principal tout de suite. Et il m'a répondu, très gentillette, en me disant, Mylène, je ne peux pas faire un film de mots. Moi, je suis un mime. C'est pas un film pour moi, ton truc. Désolé. Mais il avait raison.
Fantomas étant donc une espèce de super héros avec Louis de Funès. Mais c'était Jean Marais qui incarnait Fantomas.
Et les deux.
Et voilà.
Le journaliste.
Avec la voix de Raymond Pellegrin qui faisait l'ignoble.
L'ignoble, génial.
Fantomas.
Fantomas, un super-héros que jamais personne, incarné par Jean Marais, que jamais personne n'a attrapé.
Non, parce qu'on devait faire un... on devait faire un...
À part Jean Cocteau.
Un Fantomas à Moscou, oui, et d'autres.
Bienvenue, Nagui.
Mais en tout cas, on devait faire...
on
devait faire Fantomas à Moscou et puis il s'est
c'est
pas
fait. C'est pas possible.
Dans les années, après de longues années d'absence, on vous retrouve en 2004. Papa j'ai ça. Papa moi, pas désolé de ça. Minocine Élu, alors expliquez-nous cette musique, comment vous la connaissez, comment vous la...
Alors, Minocine Élu, il est arrivé chez moi la première fois, j'étais encore à Porquerolles et il est venu déjeuner à la maison.
Dans le Var, parce que je rappelle que vous êtes niçoise,
oui,
et que vous vivez au soleil, vous aimez le soleil.
J'ai vécu 22 ans, non c'est fini, j'ai vécu 22 ans à Porquerolles, je suis dégoûtée du soleil, du tourisme, et je vis en Mayenne. J'ai changé de vie complètement,
je suis
dans les arbres et dans la verdure, mais j'ai eu 22 ans la joie de connaître un midi qui change beaucoup. Bon, et donc Bernard Lavilliers est venu déjeuner chez moi avec sa troupe. Mino faisait partie, il était le guitariste. Donc il a joué l'après-midi, j'adore la guitare, j'étais très sympa avec ça. Et trois mois plus tard, je l'ai retrouvé dans le film que je faisais avec Jacques Fieschi qui s'appelle La Californie. Et à la cantine, au déjeuner, je vois un grand gaillard comme ça. Beau mec, faut dire qu'il est vraiment beau mec. Hein. Il arrive, je vous dis, tiens, ah, cette tête-là, je l'ai vue quelque part, lui. Et donc, je suis allée le voir, je me dis, mais je ne vous ai pas vu quelque part, vous. Hein. Il me semble, vous me sonnez familier. Il me dit, bah, j'étais chez vous, il y a... D'accord, donc on s'est revus, il a fait la musique du film et on est devenus hyper potes. Voilà.
Très bien. Année 2004-2006, c'est votre retour au cinéma devant la caméra d'Olivier Marchal, 36 Quai des Orfèvres. Olivier, d'ailleurs, que nous recevrons la semaine prochaine dans cette émission. C'était un retour, j'ai envie de dire, avec le succès populaire. Vous renouiez.
Écoutez, tout le monde m'a trouvé bien. On m'a même inscrite à un César que j'ai pas eu. Mais moi, je me trouvais pas bien. Je trouvais que le rôle était pas bien, que j'avais rien à faire dedans. J'étais presque vexée qu'on m'offre quelque chose d'aussi. Mais je me suis dit, pour mon retour, je vais pas faire la fine gueule. Donc je reviens et tant mieux si les gens m'apprécient. Voilà. Donc je suis très contente, mais bon, je n'ai pas encore donné ma pleine mesure, voilà, vous vous rendez compte, à l'âge que j'ai, je me dis, il y a encore des choses à faire. Je veux, avant de me retirer définitivement, je veux au moins une fois casser la baraque, pas pour les gens, pour moi, faire vraiment quelque chose, je me dis, ah là, oui, ma vieille, c'est bien.
Et ben pourquoi pas avec Love Letters, voilà, Comédie des Champs-Élysées, Mylène de Mongeau et Jean Pia sur cette pièce de théâtre avec ses correspondances amoureuses. Et ben justement, puisque notre invité Dominique Marny, bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour
de venir.
Bonjour.
Vous êtes auteur et vous avez publié Je n'ai rien à te dire sinon que je t'aime, correspondance amoureuse. De la correspondance amoureuse, vous avez suivi l'évolution des correspondances amoureuses dans l'histoire. On n'écrit pas de la même manière aujourd'hui, ce qu'on expliquait avec notamment la différence de support, que ce que l'on pouvait faire dans les années 60 ou...
On dit la même chose.
Même 80, on dit la même chose,
mais pas de la même manière. Et on l'a dit avec plus ou moins de talent. Et il ne faut pas croire que les gens les plus célèbres, les écrivains les plus célèbres, écrivent forcément les lettres les plus extraordinaires. Ils ont pu être ridicules en écrivant des lettres d'amour ou démunis. Donc ça n'est pas parce qu'on sait écrire.
Être ridicule dans une lettre d'amour, c'est peut-être ça aussi.
C'est ce que disait Fernando Pessoa. Il disait toute lettre d'amour est ridicule, mais on est encore plus ridicule si on n'écrit pas une lettre d'amour. Donc il faut se lancer de toute manière, oui. Non, il y a aussi des manières différentes d'arranger aussi une lettre d'amour. Si on ne sait pas tellement écrire, là je ne veux pas dire que Saint-Exupéry ne savait pas écrire, s'il savait écrire, mais quand il a aimé une femme, la dernière femme qu'il a aimée quand il était en Algérie un an avant sa mort, il était avec son escadrille, et il a aimé une inconnue, on l'appelle une inconnue car on n'a jamais connu son identité. Il a aimé une inconnue dans un train. Il est tombé fou d'elle.
Pour un pilote de ligne
d'avion. Voilà, exactement.
C'est pas terrible. Hein.
Et elle ne voulait pas de lui. Et il se servait du Petit Prince, c'est-à-dire il faisait des dessins à l'aquarelle sur chaque lettre qu'il lui envoyait du Petit Prince. Et c'était son intermédiaire pour lui dire des choses et des reproches puisqu'elle ne voulait pas de lui.
C'est formidable.
Et le Petit Prince était sorti un an avant aux États-Unis puisqu'il est d'abord sorti aux États-Unis. Donc voilà une manière. Il y a aussi une artiste qui a fait des boîtes avec des rébus amoureux, c'est-à-dire que vous offrez une boîte, mais Ce que vous voulez dire, voilà, vous devinez avec un rythme.
Mais il y a un moment quand c'est trop compliqué, est-ce que ça brise
oui,
pas
mais enfin,
la,
il y en a certains
chose.
Qui sont très compliqués, parce que moi, ouais. Il y en a certains que j'ai pas pu résoudre. Chiffres, mais ouais. C'est quand même une très belle idée, en fait, voilà.
Et dans Love Letters, c'est la correspondance d'une vie entière, puisque ça commence à 7-8 ans et ça va jusqu'à 60...
Jusqu'au bout.
Ah, ça va jusqu'au bout. Est-ce que c'est fréquent, des correspondances amoureuses aussi grandes, aussi longues, ou ça relève de la fiction?
Alors, il y a des correspondances amoureuses qui sont très longues, mais qui ne correspondent pas, qui ne commencent pas forcément à l'enfance. Mais on peut parler d'une correspondance qu'on a trouvée récemment et qui est longue, c'est celle de François Mitterrand à Anne Pinjot, puisqu'elle dure plus de 20 ans. Voilà. Il y a aussi une correspondance amoureuse très très longue, c'est celle de Victor Hugo et de Juliette Drouet.
Mais qu'est-ce qu'il aimait écrire, lui, hein?
Comment?
Il aimait vraiment écrire, lui. Il est très prolifique.
François Mitterrand, oui.
Non, mais Victor Hugo.
Ah non, c'est elle qui a beaucoup plus écrit que lui.
Ah oui,
il devait être très fatigué, justement, d'écrire ses livres. Et en fait, elle a écrit 22 000 lettres pendant leur histoire d'amour, de 1833 à 1870.
Ça, faut être accro. Hein.
Et
faut
c'était
surtout avoir du temps libre.
Oui, hein. Et c'était d'autant plus impressionnant qu'ils vivaient à quelques mètres l'un de l'autre. Donc, elle lui écrivait plusieurs fois par jour.
À quelques mètres l'un de l'autre.
Et alors, quand elle lui envoyait des reproches, parce que bon, pour les infidélités de Hugo, etc., après, elle disait, oh non, je me suis trompée, non, j'ai pas du tout vu les choses, tu as bien raison, c'était absolument pas ça. Elle lui demandait pardon de l'avoir accusée d'être infidèle.
Mais alors, pardon, la définition d'une lettre d'amour, c'est de déclarer sa flamme ou c'est simplement une correspondance entre deux personnes qui entretiennent une relation? À partir de quel moment une lettre peut être considérée lettre d'amour ou simplement une correspondance?
Alors, à partir du moment où vraiment il y a des déclarations enflammées et il y a aussi des correspondances très érotiques, donc ça aussi, ça compte, enfin, ça compte et longtemps.
George Sand ou...
Pas tellement George Sand, et puis en plus George Sand s'est arrangé pour qu'on déchire les lettres.
Vous avez un exemple dégueulasse à citer?
Dégueulasse? Non, je ne dirais pas que c'est dégueulasse, mais j'ai deux exemples de correspondance, trois de correspondance érotique, c'est-à-dire le tsar Alexandre II et la fameuse Katia. Vous savez, il y a eu un film où Romy Schneider jouait le rôle de Katia. Il l'a rencontrée, il avait 48 ans, il était tsar. Elle était jeune fille, genre pensionnat, vous voyez, de jeune fille de la cour de Russie. Il tombe amoureux, ça a duré toute sa vie, jusqu'à sa mort à lui. Et il lui écrivait tout le temps, et justement, les ébats amoureux, ils appelaient ça leur Bingerl. Enfin, je ne sais pas comment le prononcer, B-I-N-G-E-R-L-E. Et quand ils disaient, on va faire Bingerl, ça voulait dire ça, et ça a duré très longtemps. Il y a eu aussi Apollinaire et Lou, bien évidemment, dans les correspondances amoureuses. Il l'a connu juste avant de partir pour la guerre de 14, il est dans les tranchées, et il lui écrit des choses absolument extraordinaires, et elle lui répond des choses encore plus torrides. Elle avait absolument pas froid aux yeux. Voilà une femme très moderne en 1914.
Alors, pour vous de modernité, est-ce que justement les mails, les SMS et autres modes de communication aujourd'hui qui sont formidables pour ceux qui le font et pour l'utilité qu'ils ont, ne sont pas la mort des lettres amoureuses, ou est-ce qu'au contraire c'est trop chic, c'est la panacée de tout aujourd'hui d'écrire encore une lettre amoureuse?
Mais je crois qu'on peut écrire une lettre amoureuse par mail, ça c'est très intéressant. Alors, la chose qui différencie...
Je parlais du parfum, de l'écriture, du graphisme, de petits qu'on peut rajouter.
Oui, mais alors il y a quelque chose. Oui, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas tout ça, mais on peut peut-être encore plus imaginer et encore peut-être plus fantasmer quand on n'a aucune trace de rien. Sauf que je pense qu'il y a quelque chose de différent avec le mail, c'est l'instantanéité. C'est-à-dire que vous savez tout de suite ce que pense l'autre, alors que quelques siècles auparavant, une lettre d'amour pouvait mettre des semaines, des mois.
Ouais. Oui, mais l'attente, ça peut être excitant.
Et l'attente est excitante. Peut-être que c'est ça que le mail détruit. C'est peut-être l'attente. C'est ça que je dirais.
Mais je me semble aussi que si on écrit, par exemple, un truc érotique, alors je disons n'importe quoi, je rêve de ta chatte largement ouverte.
C'est Puccini. Puccini a écrit après ça. Puccini.
Mais si on la met sur un mail, c'est horrible sur un mail.
Non, Mylène,
non. Non, moi je pense pas.
Non,
et en plus, vous pouvez rédiger un mail comme une lettre.
C'est à l'oral que c'est horrible, en fait.
Et puis ça dépend qui l'envoie.
À l'oral, c'est aussi possible.
Ça dépend qui l'envoie, surtout qui. Voilà.
Bon, on est censuré, j'ai compris.
Mais pas du tout.
Non, ça, on n'est pas du tout censuré, on est en direct. Donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je voulais juste simplement souhaiter un bon appétit.
Bon, enfin,
au petit qui rentre.
Appétit, je vois, quel rapport entre l'appétit, excuse-moi.
Bah moi, j'envoyais un immédiat, mais c'est la raison, c'est pas le, c'était pas le même. Donc, y a-t-il des lettres de rupture célèbres aussi, comme des lettres d'amour célèbres? Est-ce que aussi,
Il y en a une très célèbre, c'est celle de Flaubert à Louise Collet. Louise Collet était sa maîtresse depuis longtemps, il y avait des hauts et des bas, il s'engueulait beaucoup. Et elle était très pénible, c'était une femme de lettres assez difficile, et puis elle le trompait tout le temps. Oh. Et elle va trois fois le voir à Croisset, et elle trouve porte close. Et là, il en a peu plus, et lui écrit, écoutez, c'est plus la peine de venir frapper à ma porte, de toute façon je n'étais pas là, et dites-vous que je n'y serai plus jamais.
Bingo.
Au moins c'est clair.
Bingo, c'était clair.
Ça s'appelle le sens de la formule. Vous préparez un nouvel ouvrage?
Oui.
Sur les correspondances aussi?
Pas sur les correspondances, mais sur les couples.
Oui, bah on reste dans l'amour.
Mais ils s'écrivent beaucoup, surtout certains, oui.
Dominique Marny, merci d'être venu apporter votre connaissance du sujet. C'est
merci.
Passionnant. On voit bien, Daniel Morin, que malgré les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, la correspondance amoureuse reste quand même ce qu'il y a de plus beau, de plus...
Stop beau, non, non, pitié, pitié, pardon. Non, désolé Alison, mais arrêtez, monsieur Guy, arrêtez chaque jour que Dieu fait d'élever le débat de cette façon. Même si aujourd'hui, votre élévation est plutôt médiocre. Fini la belle correspondance, terminée la belle lettre, basta les plaints et les déliés, soyons modernes, nom de Dieu. En plus, excusez-moi, mais qu'y a-t-il de plus beau qu'un texto bien écrit pour déclarer son amour? Kiff, cœur, cochon, aubergine. Ça, c'est beau. Là, je vais demander son avis à mon ami expert musical Jean-Philippe Manœuvre. Je sais qu'il sera d'accord avec moi. Jean-Philippe, vous pensez que c'est encore important la correspondance par lettre pour déclarer son amour?
Mais grave de chez grave, Dany. La lettre d'amour, y a rien de plus beau.
Non mais en fait, ça m'arrange pas comme réponse.
Ok, bon, bah, pas de problème, repose la question, mec.
Jean-Philippe, vous pensez que c'est encore important la correspondance par lettre pour déclarer son amour?
Mais non, surtout pas, Dany. La lettre d'amour, c'est ringard, c'est total loose.
Alors, Nagui n'est pas de cet avis, il trouve ça magnifique, les lettres d'amour.
Tu parles, il sait même pas écrire, cet escroc.
C'est quoi le meilleur moyen pour déclarer sa flamme, alors?
Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps de se mettre à une table pour écrire. Le truc, c'est le bon vieux coup de téléphone, Dany.
Ah, ok, et on dit quoi?
Bah, on est direct, Dany, fucking direct. Direct. Mais on y met les formes quand même, on dit un truc du style « Allô meuf, c'est Jean-Philippe, je te trouve super bonne, tu veux bien être ma femme pour 20 minutes ?»
Waouh,
et puis il n'y a pas
puissant.
Le problème des fautes d'orthographe, hein.
Hyper puissant, hyper puissant, ça marche?
Non, mais elle est au courant et elle peut changer d'avis.
Merci Jean-Philippe, alors vous voyez, monsieur Guy, il faut apprendre à vivre avec son temps. Coup de fil, texto, voilà, ça c'est moderne, c'est donner de la noblesse à son temps. Une fois de plus, avec vos raisonnements de poète alcoolique maudit, vous avez dit
n'importe quoi.
Merci Dany Morin avec Alcalde.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
One More Night, c'est maintenant. D'accord. Michael Kiwanuka et notre invité Mylène de Mongeau. Et vous êtes bien sur Inter, vous écoutez votre bande originale.
One more night, one more night. I'll be alright, I'll be right.
Michael Kiwanuka avec ce titre One More Night. Et Mylène de Mongeau est avec nous jusqu'à 12h30.
Bonjour,
Daniel Morin,
Daniel, bravo.
Albert Algou, bonjour, Charles Arnaud qui nous accompagne au club, et notre invitée Mylène de Mongeau. Bravo. Elle sera à partir
deuxième bateau.
Elle sera à partir de demain à la Comédie des Champs-Élysées sous la direction de Stéphanie Fagado, aux côtés de Jean Piat. Mylène de Mongeau interprétera Love Letters, cette pièce qui a été jouée maintes et maintes fois avec cette correspondance entre d'abord des enfants de 7-8 ans jusqu'à de grands enfants de 70 ans voire plus. Et tout au long de la vie, cet amour, c'est deux qui se cherchent, qui s'apprivoisent, qui se drague, qui s'attire, qui se repousse, qui se rate aussi avec des avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'amour, avec par moments aussi de la jalousie, bien qu'on puisse rapprocher jalousie et amour en disant que ça fait partie un peu des mêmes sentiments ou de la même famille. Votre premier plaisir, Mylène, en retrouvant ce rôle, c'est de remonter sur scène, de partager avec Jean Piat, de jouer cette pièce.
Vous avez tout dit, c'est exactement ça.
Mais d'abord, lequel des trois alors?
Ah ben, le plaisir de travailler, de retravailler, de travailler avec quelqu'un d'exceptionnel, Jean Piat. Et après le plaisir, il y a le désir de partager, d'échanger avec le public. C'est-à-dire, vous êtes là et vous vous dites, il y a des gens qui vont venir me voir. Est-ce que je vais leur donner ce que j'ai tellement envie de leur donner? Et comment est-ce qu'ils vont réagir? Et c'est pour ça qu'on a tellement la trouille avant la première demain. C'est que pour la première fois, je vais avoir du public. C'est-à-dire, pour la première fois, tout le travail que nous avons fait va aller chercher la réponse en face de nous. Et ça, c'est excitant et terrifiant.
Première sanction demain, quoi.
Voilà. Mm-hmm. Et pour dire, pour parler de ce que vous
disiez... Tu l'encourages en disant première sanction.
La sanction peut être bonne, bien sûr.
C'est vrai.
C'est comme la critique, ouais.
Ce que vous disiez tout à l'heure, Coluche disait une phrase que j'adore, il disait, c'est vrai, les gens s'aiment. Mais jamais en même temps. Je
trouve ça génial. Ça dépend, il y a quelques soirées, je vous emmènerai. Ils s'aiment tous en même temps.
Oui, mais ça, c'est pas mon truc, ça.
Après 17 ans d'absence au théâtre,
le retour.
En tout cas, voilà, le retour de Mylène de Mongeau. Quant au cinéma, j'imagine que les rôles, les succès populaires comme ceux de Camping vous ont apporté de nouveaux scénarios qui ont dû arriver, de nouvelles histoires.
Non, ça apporte une popularité, voilà. Donc la popularité, elle continue, c'est ce qui est bien, mais pour des femmes de bon âge, allons-y carrément, c'est très difficile de trouver des rôles intéressants. Ce que j'aimerais bien faire, moi, si je pouvais choisir mes rôles, d'ailleurs, c'est ce qu'on devrait faire finalement à partir d'un certain âge.
Écrire.
On devrait choisir ses rôles et dire voilà, je veux jouer ça. Alors, mais j'ai un film que j'adore qui s'appelle Lady Solange. Ça fait 3 ans qu'on rame avec la metteur en scène pour faire Lady Solange parce que c'est l'histoire d'une femme qui vit dans une maison de retraite et qui, bizarrement, a encore envie d'amour, a encore envie de baiser, a encore envie d'avoir une histoire. Et les producteurs disent « Ouais, des histoires d'amour de vieux, mais ça intéresse personne, ce truc-là. » Et donc, on n'arrive pas à
s'intéresser. C'était hier que Kali avait abordé le thème de la sexualité chez les seniors, parce que on peut aimer jusqu'au bout de sa vie et prendre du plaisir jusqu'au bout de sa vie. Il n'y a pas d'âge où on arrête.
C'est peut-être moins joli à regarder quand on est tout nu sur un lit, mais on peut fermer la lumière aussi.
Ça dépend comment on filme les peaux, les corps. C'est très beau aussi.
Oui, au cinéma.
Oui.
Mais c'est vrai qu'on est moins beau que quand on a 18 ans. C'est vrai qu'à 18 ans, quand on est amoureux, on aime montrer son corps.
Vous savez, j'en connais qui ont 18 ans, c'est pas joli.
À 18, à 30, à 40, même jusqu'à 40, ça. Même jusqu'à 50, ça peut aller bien. Mais quand ça commence à se décrépir un petit peu, tout ça, on a moins de plaisir à se regarder dans la glace. Donc on a moins de plaisir à se montrer à l'autre aussi.
On éteint la lumière.
Et puis l'autre, il prend de la brioche aussi.
En fait, vous auriez aimé jouer dans Amour aux côtés de Jean-Louis Trintignant?
Oh, c'est dur. C'est très très dur ce film. J'ai trouvé ça... Vraiment, ouf. J'ai adoré le rôle d'Isabelle Huppert. Je trouvais qu'elle était absolument extraordinaire dans le film. Mais l'autre, c'était douloureux. Non, j'ai souffert. Mais c'est pas le genre. Moi, j'aimerais faire Miss Daisy et son chauffeur.
Ah, d'accord.
Voilà, okay. Ça, j'aimerais bien.
Non,
ça, ça me plairait.
Voici l'humeur de Daniel Morin.
Oui, oui, monsieur. Très observateur. Aujourd'hui, nous évoquons la correspondance amoureuse. Et je dois vous avouer que c'est un délice. Pour fêter ça, je vais vous lire les plus belles lettres d'amour d'Émile Louis.
Coucou Daniel.
Bonjour Père Albert, bonjour, vous allez bien?
Oui, je suis au taquet, comme disent les jeunes drogués.
Je voulais vous demander, vous ne souffrez pas trop du froid en ce moment?
Non, j'ai pris mes précautions. L'année dernière, j'ai trop morflé, vous savez.
Comment ça?
Le problème, Daniel, c'est que j'aime bien avoir mes aises.
Oui, racontez-nous.
Eh bien, par exemple, je ne supporte pas les sous-vêtements. J'en pleure d'avance.
Ouais, je vois, ouais.
J'aime être nu sous ma soutane. J'aime la douce sensation de la toile de bure rêche et revêche qui frotte mon intimité jusqu'à provoquer des irritations qui engendrent d'insupportables démangeaisons que j'apaise à grand renfort de mitosil, de friction au papier de verre, ce qui inévitablement provoque une inflammation des chairs qui évolue chaque fois en septicémie des parties génitales que le soir venu, je trempe dans un bol de tisane brûlante qui me soulage et me fait hurler à la fois.
Oui. Et alors,
quand l'hiver dernier, je me suis baladé, quasi les baloches au vent, eh bien, je me suis retrouvé avec un testicule gelé qui a commencé à pourrir.
Oh, quelle horreur!
C'est pourquoi, cette année, je ne prends aucun risque. J'ai mis mon slip d'amarre, que j'ai moi-même tapissé d'amiante, pour avoir bien chaud.
Et dans votre camionnette, ça va, vous avez le chauffage, j'espère?
Pas besoin.
Comment ça?
Ben, en ce moment, j'accueille un groupe de jeunes migrants dans ma fameuse camionnette bâchée cuir clouté noir, garée dans le bois de Boulogne. Ils sont une trentaine entassés la nuit, nous dormons les uns contre les autres pour nous tenir chaud, à la façon des mammifères quand arrivent les premiers frimas.
Mais c'est pas un peu gênant, une telle proximité, une promiscuité avec, avec des familles entières?
Non. Et puis, d'abord, ce ne sont pas des familles. Il s'agit d'une, je viens de vous le dire, vous êtes sourds, d'une trentaine de jeunes garçons, tous culturistes.
Oui, mais 30, ça fait beaucoup quand même dans une petite camionnette.
Oh, bah, oui, bien sûr, certes, nous sommes à l'étroit. Mais ça n'en est que meilleur. Pour que nous soyons à l'aise, nous dormons nus, le corps oint d'huile, pour qu'en cas de contact ou de frottement, nous ne nous blessions point.
Oh, c'est cochon, dis donc.
Ben, pas encore. Mais c'est pas un peu gênant de se retrouver nu, le corps huilé, avec des culturistes?
Mais t'es con ou quoi?
Ah ben,
c'est le rêve. Un moment, par exemple, la nuit dernière, je me suis levé en catimini pour aller manger en cachette un Kinder Bueno.
Oui, très intéressant.
Comme il faisait noir, je n'y voyais goutte et j'ai marché sur un pénis qui traînait au sol. Comme le pénis était huilé, j'ai glissé dessus et je suis retombé de tout mon poids sur Ahmed, un jeune Syrien au corps de rêve. Il a cru que c'était la police qui venait le chercher. Il s'est retourné comme une anguille et il m'a sauté à la gorge.
Non.
Si, comme ça fait un boucan du diable, ça a réveillé les autres qui se sont mis à paniquer. Ça a déclenché une bagarre générale. Je me prenais des coups de pied, des coups de poing, des coups de cul.
Quelle horreur!
Mais non, pauvre imbécile, c'était génial. La camionnette tanguait dans tous les sens et les flics ont débarqué.
Aïe, la tuile.
Pas du tout, ils se sont dessapés. Ils nous ont rejoints. Ça hurlait, ça chantait, ça cognait. C'était formidable.
Il y a d'autres gens qui vous ont rejoints comme ça?
Ah, tu crois pas, c'est bien dire. Comme je suis garé dans le bois de Bobo, il y a pas mal de passages, tu le sais. Mm. Alors on a eu la visite de Nagui, qui fait tous les jours son jogging dans le bois vers 3h du mat.
Nagui?
Oui, il a passé une tête et il a dit « Ouais, faites du bruit !»
Et à part Nagui, qui d'autre?
Manuel Valls, qui est passé lui aussi.
Ah, il a dû avoir très peur.
Ah, pas du tout, il est entré, il nous a dit « Oui, ok, je participe, mais pas de gif. Pas de gif, s'il vous plaît. »
Et Sarko, il en fait plus?
Non, si, lui aussi, il fait son jogging dans le coin.
C'était complet. Donc, vous n'avez pas eu froid?
Non, ce matin réveillé, il faisait 43 dans la camionnette.
Ah, ben me voilà rassuré. Bon, ben, c'est dommage, là, on n'a plus le temps, Nagui, pour les lettres d'amour d'Émile Louis, tant pis.
Ah, dommage,
mais
oui.
Rassurez-vous, hein, je les garde pour les lire le 14 février pour la Saint-Valentin.
À demain. Ah,
merci, merci Déborah, et à bientôt.
105 heures, la bande originale, avec Nagui.
Donc, je rappelle que vous êtes Mylène de Bonjour au théâtre avec Jean-Pierre dans Love Letters. C'est à partir de demain à 19h à la Comédie des Champs-Élysées. Le 22 mars, vous serez à l'affiche de Sage Femme aux côtés de Catherine Deneuve et Catherine Fraud. Ça se passe comment ce genre de tournage? Parce qu'on imagine bien que vous pouvez vous mettre le temps que le dire-faute est fini, de préparer sa lumière, que la mise en scène soit faite. Est-ce que vous êtes dans un coin, toutes les trois, à vous marrer, à raconter
C'est très embêtant de venir faire une prestation dans un film qui a déjà commencé, où toute la troupe est soudée, où toute la troupe est installée, et vous venez pour une journée faire une prestation. C'est très 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 intimidant.
Frustrant.
C'est un très bon exercice, mais c'est très très intimidant parce que vous arrivez et là vous n'avez Il faut que vous preniez votre place tout de suite dans un endroit où vous n'avez pas votre place. Vous ne connaissez pas le rythme du film. Vous, vous avez lu le scénario. Donc vous avez une idée du rythme du film, mais pas vraiment. Et il faut faire totalement confiance à la mise en scène et se laisser guider par lui. Puis je me suis très bien entendue avec Catherine Fro. Elle est très sympa. Au départ, elle était un peu réservée. Mais après, on a bien ri et ça s'est bien passé.
Voici,
mais
je peux vous
dire un truc rigolo, parce que ça m'est revenu quand vous parliez de la soutane et de vos histoires de soutane. Et je me souviens quand j'étais... Non, mais quand
je suis
au couvent,
impatient d'entendre.
J'étais au couvent, hein, et on était obligés au couvent de se confesser tous les vendredis. Et au couvent, les filles se confessaient tous les vendredis, on n'a pas spécialement grand-chose à raconter.
D'une semaine à l'autre, oui.
Et on avait un curé, il était joli, il devait avoir 30 ans. Il y avait encore la soutane avec les petits boutons comme ça et tout. Et les grandes, celles qui avaient 13-14, elles faisaient exprès d'aller au confesse et d'essayer, c'était à celle qui dirait le plus de saloperies possible pour essayer de le faire rougir. Et quand elle sortait, elle disait « Ouais, on a hier, on l'a fait rougir, on l'a fait rougir !»
Les jeunes catins.
Voici le brouillon de culture de Leïla sans aucun enchaînement.
Pour Mylène de Mongeau. Mylène de Mongeau, je vous sors de la promo, c'est notre brouillon de culture, un petit bol d'air, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. On commence avec un son pour vous.
Moi, président, ce que je ferais de toute urgence, ce qui me paraît la chose la plus nécessaire, la plus importante, c'est de faire ce qu'on peut pour que l'humanité cesse de saccager sa planète.
C'est Hubert Reeves.
C'est devenu un problème majeur.
Je l'aime.
Dont nous pourrions plus tard, et peut-être pas tellement plus tard, souffrir terriblement.
Voilà, Hubert Reeves, vous l'avez reconnu.
T'as dit formidable, je fais partie de son association d'ailleurs.
Voilà, une voix qui vous parle et un combat aussi que vous avez en partage,
évidemment.
L'écologie que vous menez au quotidien, même dans votre ferme donc en Mayenne, où vous avez donc acheté un certain nombre d'hectares. Et il y a récemment, vous vous êtes mobilisé, puisque les terres agricoles ont été polluées, parce que non loin de ces terres, il y a une usine de retraitement de déchets de polychlorobiphényle qui peuvent être cancérogènes, qui peuvent éventuellement être des perturbateurs endocriniens. Et là, vous avez mené un combat.
C'est une lamentable histoire, parce que quand vous menez un combat de ce genre, on vous répond d'abord « Oui, mais si on ferme l'usine, ça met tant de personnes au chômage. » Ça, c'est le premier argument. Et ensuite, quand vous essayez d'aller voir les gens et de leur dire « Venez !» déposer, venez parler avec moi, venez à la radio, venez raconter votre histoire. Il y a une petite fille qui n'avait plus ses règles, il y a un petit garçon qui se met à avoir des seins qui poussent, il y a plein de choses qui se passent
à cause de la pollution.
Et là, les gens ont peur. Ce qu'il y a de terrible, c'est que quand on s'attaque à ce type de sujet, les gens, ils ont la trouille et ils veulent pas y aller. Parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux. C'est ce que je dis à tout le monde, même à mes amis qui se battent pour les animaux. Je dis, c'est pas la peine de se battre pour les animaux. C'est pas la peine de dire que la corrida, c'est une horreur. C'est ce que nous pensons tous. Nous sommes convaincus. Nous n'avons pas. Ce qu'il nous faut, c'est que nous représentions X milliers de gens. Il faut que vous recensiez le nombre de gens que nous sommes. Et là, on dit aux politiques, voilà, si vous voulez qu'on vote pour vous, mes chers amis, nous représentons 1,2 million, 1,3 million de personnes.
Mais pardon,
méfiez-vous.
Ça n'a pas de couleur politique de vouloir sauver la planète par respect, de protéger les animaux des agressions humaines.
Et bien sûr que non. À un moment donné, il va bien falloir qu'on vote.
Non, mais je suis bien d'accord. Mais
les écolos,
on va pas voter.
Et oui, mais ils sont inexistants. À une époque, j'ai été très écolo. À une époque, j'ai été très proche de Wechter. Puis quand j'ai vu comment ça tournait, et quand j'ai vu que ça devenait politique, ça m'a vraiment trop dérangé. L'écologie, c'est quelque chose qui englobe tous les partis. C'est l'avenir de notre planète. C'est pas un gauche, un droite, un milieu. Non, c'est. Et je n'arrive pas à comprendre que ces gens-là qui mangent comme tout le monde, qui dorment comme tout le monde, pourquoi ils ne comprennent pas l'enjeu énorme d'emmener la planète à sa destruction. Vous savez, on est de plus en plus nombreux et la planète, tout le monde le dit, elle est petite, elle se restrécit comme ça. Ce qui va peut-être nous sauver, c'est Internet. Parce que Internet a pris une telle puissance que là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On n'avait pas cette force-là avant. Donc Internet sera peut-être ce qui nous sauvera.
En tout cas, cet épisode-là de pollution qui a touché votre région, elle a quand même conduit à abattre beaucoup de bêtes dont la viande et le lait étaient contaminés.
Mais l'histoire de la viande folle, l'histoire des petits canards, c'est honteux ce qui vient de se passer avec les petits canards. Par principe de précaution, ils ont abattu...
Un million.
Mais des centaines de milliers de pauvres petites bêtes, je vous assure, c'est des canards à la maison. Ça s'apprivoise, c'est intelligent, c'est adorable. Vous n'avez pas le droit de traiter les animaux comme ça. Ils étaient avant nous sur la terre. Nous, on est arrivés faibles, démunis, on s'est bien mangés, hein. Je peux vous dire, le Homo sapiens, c'est une belle saloperie.
Et vous êtes aussi à la tête, vous êtes la présidente du refuge de l'Arche de Château-Gontier.
Oui, ce sont mes amis, je les adore.
C'est la Ligue pour la protection des animaux aux côtés de
Château-Gontier, venez voir des animaux qui sont simplement sauvés. On les prend dans les douanes, on les prend chez des gens maltraités, on les prend. Voilà, ils sont là. Ils n'aiment pas l'homme d'ailleurs. Quand vous allez les voir, ces animaux-là, ils ont eu une tellement mauvaise expérience des humains que vous les approchez difficilement.
Et vous, est-ce que vous aimez l'homme?
Des fois oui, des fois non. Oui. Je suis ambigu, comme l'être humain est ambigu. Ça ne peut pas être tout blanc et tout noir, c'est entre les deux. Donc je navigue entre les deux. Des fois je dis, Sapiens, c'est une saloperie. Oui, mais il y a l'art, il y a la musique, il y a la peinture. Donc il n'y a pas que des merdes dans Sapiens. Voilà. Donc ça, je balance. On balance tout le temps. C'est ça la vie. Hein.
C'est les deux côtés, absolument. On poursuit avec un autre son pour vous.
Je suis infiniment heureuse d'être ici pour la troisième fois. Je vois que le festival devient de plus en plus grand. De plus en plus beau, de plus en plus célèbre, que les gens qui viennent nous voir sont de plus en plus prestigieux. L'année dernière, j'avais la joie de vous avoir amené Pierre Richard.
Oh, mon
pote. C'était déjà énorme. Et aujourd'hui, Jean-Paul Belmondo, ma foi, c'est aussi énorme, encore plus énorme. Et c'est magnifique. Et je suis très, très heureuse pour Kharkov.
Voilà, c'est vous. En 2011, c'était l'inauguration du troisième festival de cinéma, les Lilas de Kharkov.
À Kharkov, en Ukraine.
En Ukraine.
Mon pays, mon demi-pays.
Alors, est-ce
que
vous pouvez nous en dire plus sur ce festival? Pourquoi Kharkov? Expliquer à nos auditeurs le lien avec votre vie.
Eh ben parce que maman est née à Kharkov. C'est une humble dame de petites gens de la ville de Kharkov. Donc, à l'époque, Kharkov, c'était la Russie, c'était pas encore l'Ukraine. Et maman me disait toujours, bon, alors, avant de passer à maman, me disait, je suis pas née. Maman a rencontré mon père à Shanghai, qui était à l'époque le Hollywood des pauvres filles russes qui n'avaient pas été beaucoup à l'école et qui, maman, elle avait que son intelligence et son extrême beauté. Elle est partie à Shanghai, elle a vécu comme entraîneuse à l'époque, comme elle me disait gentiment, elle me disait, tu sais, les entraîneuses sont pas obligées de coucher, hein, parce que les entraîneuses, elles peuvent choisir. Je dis, bon, maman, d'accord. Donc, maman a rencontré mon père, qui était le plus beau parti de Shanghai à ce moment-là, qui était extrêmement beau, et maman s'est dit, celui-là, je le veux. Et celui-là, elle l'a eu. Donc, elle l'a épousé, il l'a épousé, il l'a ramené à Nice, scandale dans une famille noble, où ma grand-mère est allée voir le pape pour essayer de faire annuler le mariage pour que maman puisse se marier à l'église. Oui, oui, c'était
une histoire géniale.
Je suis en balance comme ça entre les deux. Et mon histoire a intéressé les gens de Kharkov qui ont fait qu'on est devenus, maman et moi, une espèce de deux égéries de la ville de Kharkov. Et ils ont fondé ce festival à la suite du bouquin que j'avais écrit qui s'appelait Les Lilas de Kharkov, qui est l'histoire de la vie de ma mère, qui a donné lieu ensuite à une bande dessinée qui s'appelle Adieu Kharkov. Et j'ai amené tout le monde là-bas, Katel et tout le monde.
Katel qui est une formidable dessinatrice.
Oui, extraordinaire. Il est magnifique son bouquin. Je suis fière comme tout. Je l'offre. Tiens, j'aurais dû vous l'offrir, Nagui, aujourd'hui, parce que vraiment, je l'offre.
N'inversons pas les rôles. C'est nous qui vous offrons par.
Elle vient de sortir une bio de Joséphine Becker. Voilà. Je l'ai
bah, c'est bien entendu.
Et justement, c'est à mon tour de faire un cadeau.
C'est vrai
oui, pour finir, je vous offre cette édition limitée de luxe avec deux CD et DVD d'Eddie Mitchell et son Big Bang qui était au Palais des Sports. En fait, il a fait des concerts, une série de concerts exceptionnels au Palais des Sports. Ça a été filmé par une dizaine de caméras à angles différents, c'est un vrai spectacle. Il y a le CD, il y a la captation du spectacle, il y a 21 musiciens autour de lui, et il revisite tous les plus grands titres qui ont fait son succès, et les titres un petit peu plus récents, avec son big band qui est dirigé par Michel Gaucher. Voilà, c'est mon cadeau
pour
vous.
C'est super sympa, ben merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir.
Eddie Mitchell étant un Varois aussi, comme vous l'avez été.
Non, oui, mais c'est un Varois, il doit venir d'ailleurs aussi, comme moi.
On vient tous d'ailleurs.
Un Varois de Belleville.
On est tous citoyens de la planète aussi, quelque part.
Non, c'est beau, Nagui.
Voici. Moi aussi, je t'aime pas. Voici Erwan avec Curling dans la bande originale sur Inter.
T'épouses la street, la tête dans le wind. T'as fait du self-control, ton way of living. Pour rassurer toujours le petit nanoeil qui cligne. T'es curling. Curling. T'es pas baba, t'es pas bobo, mais t'es pas contre un petit bibi.
toujours brut de pomme, mais tu sais être smoothie. Tu bouscules à peine l'air, mais t'irradies et tandis tes curling. Tes curling.
Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elles glissent nues sur la banquise et balayent la matière grise comme au curling. Dans ton monde, on s'est lâché prise. C'est les autres pour toi qui balisent. Toi, tu glisses à l'aise sur la patine comme au curling.
Tu doubles fil au Ritz. Descends, grand seigneur, balance nonchalamment les clés au chasseur. Et lui, tapote la joue avec un petit ton farceur. T'es curling, t'es curling. Sa pince-fesse, sa gratine, mais toi tu coulisses. La vie est une faillite que tu croques à pleine tif. Petit pas de danse quand tu traverses la piste. T'es curling, t'es curling.
Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elle glisse nue sur la banquise et balaye la matière grise comme au curling.
Tu crouses sur la corniche pour admirer la mer. Le soleil t'aveugle et c'est pas pour te déplaire. Belle journée pour s'éclipser et faire du curling, du curling.
Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elles glissent nues sur la banquise et balayent la matière grise comme au curling. Dans ton monde, on s'est lâché prise. C'est les autres pour toi qui balise. Toi tu glisses à l'aise sur la patine comme au curling.
Erwan avec Curling, ça c'était le rire d'Alison Wheeler. Sinon notre invitée Mylène de Mongeau qui sera avec Love Letters à l'affiche de Comédie des Champs-Élysées à 19h et avec Jean-Pierre. Et ça sera tous les jours à partir de... la représentation est à 19h.
Pas tous les jours, pas tous les jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche après-midi. Oh,
c'est très
pas
bien.
Mal déjà. Okay,
ouais, c'est bon rythme.
Ça fait plus
de la moitié. Comme ça je pourrais aller à la campagne.
En tout cas, ça a été un bonheur total d'avoir votre fraîcheur et votre sourire et votre intelligence. Absolument. Non mais je vous le dis. Ce qui va différer de Daniel Morin qui a des excuses à nous présenter, Daniel.
Et désolé pour nos auditeurs de Mayenne qui ont été choqués par la violence des propos de Nagui sur cette belle région. Nagui qui a dit, je cite, région oubliée par le soleil, désertée par le tourisme et la culture, dont les habitants sont particulièrement laids. Vous ne respectez pas la France, Nagui. C'est une honte.
Monsieur,
il a dit ça, vous n'écoutiez pas. Désolé pour les candidats à la primaire de la gauche qui ont découvert que leur débat de ce soir... ne servait finalement à rien. Sydney Love a tout changé ce matin. Cœur sur toi, Sydney. Désolé pour Mylène de Mongeau qui a été honteusement censurée par Nagui quand elle parlait de ce splendide email. Elle parlait d'un animal à quatre pattes bien ouvertes. C'est honteux, Nagui. C'est honteux. On n'est pas chez Moubarak. Merde, on est en France, monsieur. Et désolé pour tous les homo sapiens qui nous écoutent et qui ont été choqués par les propos de Mylène qu'ils a traités de belles saloperies. Désolé, les gars.
Merci, Mylène de Mongeau.
C'est moi qui vous remercie.
Merde, comme on dit.
Bravo. Un très bon moment avec vous, monsieur.
C'est très gentil.
Ça m'a détendu, je suis détendue.
Voilà.
C'est l'essentiel.
Remède au stress.
Enfin, je vous rappelle que c'est demain.
Salut.
Je vous rappelle que c'est...
Les carnets de campagne, c'est tout de suite, en tout cas. Sur un... la corne, le retour. Que de corne, que de corne.
Ouais, je sais. Non, mais on s'est bien marré avec vous, c'est pour ça.
C'est gentil.
D'accord. Salut les amis.
On s'est bien marré, Jean-Marré.
Ah, oui, Jean-Marré. Ouais, non, la marée. La marée.
D'accord aussi. D'accord, aussi. Les cornes de bruit aussi. D'accord, oui. On a eu tout ça.
Bonne émission.
Il est là.